Alors, il y a peut-être un mois, je ne sais plus, quelques semaines, en tout cas c'était avant notre week-end à Isenflou, suite à des questions de Geneviève, j'avais abordé le sujet de l'autorité. Et puis Marc-André avait suggéré qu'une prochaine fois, on voit ce sujet vu par l'autre bout de la lorgnette, donc ce qui s'appelle la soumission. Hein ? Alors, je trouvais que c'était intéressant de reprendre un petit peu ce qu'on avait vu, mais vu par l'autre côté. La seule chose, c'est que je le savais, mais ça touche plein d'autres domaines qui sont eux-mêmes très complexes. Et puis, on ne pourra pas tout partir dans tous les embranchements et tout développer, mais on va essayer de survoler un petit peu ça. Je pense que c'est intéressant. Je voulais juste rappeler, j'ai parlé de la méditation plusieurs fois, on a fait notre week-end dessus. Et puis, quand on a des moments comme ça où on essaie de voir ce que la Bible dit sur un sujet ou sur un autre, il faut toujours penser que voilà, le but de ces moments-là, au-delà de la nourriture éventuelle qu'il peut y avoir directement dedans à consommer de suite, c'est surtout justement de construire le cadre approximatif dans lequel notre méditation va s'exercer. Hein. Parce qu'on avait vu que la méditation, donc c'est chacun qui va aller se nourrir en prenant du texte, et puis en se l'appropriant, en vivant avec, en faisant sa nourriture. Mais il y a un minimum de connaissances aussi à avoir pour pas que la méditation devienne du délire complet sur n'importe quoi, dans n'importe quel sujet. Et ça, c'est notre connaissance de un peu cohérente des textes et de l'enseignement de ce qu'on appelle la doctrine chrétienne. Donc quand on a ces moments-là, peut-être c'est un petit peu différent ce genre de sujet que quand je vous partage juste le fruit de ma méditation sur quelque chose, ou comme je dis tout le temps, hein, c'est juste un repas préparé. C'est comme quand on va au restaurant, y a quelqu'un qui a fait des courses, qui a cuisiné, on s'assoit, on mange, on a bien ou mal mangé, mais on repart, voilà, on a mangé. Alors que ce qu'on va voir ce matin, j'espère qu'il y aurait peut-être quelque chose à manger un petit peu aussi pour tout de suite, toujours un petit snack. Mais le but, c'est aussi de, quand on va méditer, on tombe sur des mots et on a souvent de faux concepts ou alors on n'est pas sûr sur le sens de ces mots-là. Et vous savez que le plus grand et le principal ennemi de la vérité, c'est pas l'erreur, c'est la contrefaçon. Parce que l'erreur, c'est simple. Hein. On a suffisamment de bon sens pour, si on pense avoir compris que le texte disait qu'il fallait tromper notre femme, c'est qu'on a mal compris. Ça, on le sait, c'est une erreur grossière. Par contre, ce genre de mots, autorité, soumission, etc., c'est des mots qui sont pièges parce qu'on pense qu'on sait ce qu'ils veulent dire. Hein. Mais peut-être on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Hein, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur ces choses-là. Hein. Alors voilà, c'est juste pour situer un peu ça. J'ai pris un verset parmi des beaucoup, beaucoup d'autres, hein, pour commencer. Éphésiens 5, 21. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ce n'est pas par hasard que j'ai pris celui-là, bien sûr, sur tous les versets qui existent. Mais il est intéressant parce que c'est un verset qui déjà suggère beaucoup de choses. Hein. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est quelque chose qui est dans Éphésiens 5. Paul écrit à une église, donc à des gens comme vous et moi. Il écrit à des hommes, à des femmes, à des jeunes, à des vieux, aux responsables, aux nouveaux convertis. Et il leur dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Première chose qu'on peut voir, c'est que la soumission est un acte volontaire. On ne soumet pas quelqu'un, mais on peut choisir de se soumettre ou pas. Hein. Quand on utilise le verbe soumettre dans le sens de l'imposer, c'est toujours pendant, dans une guerre par exemple, hein, on va soumettre un autre peuple, etc. Ou c'est dans des cas d'abus d'autorité. Mais la soumission, c'est jamais quelque chose qui est imposé par l'autorité. L'autre fois, on parlait de l'autorité, ce que c'est l'autorité, qui est liée à la fonction, à ce qu'on fait, pas directement à ce qu'on est. Et la soumission, c'est quelque chose qui se choisit, c'est un consentement à l'autorité. Donc, la personne qui est dans la position d'autorité dans un contexte particulier ne peut pas soumettre les gens. Hein. Elle exerce ce qu'elle a exercé, et si les gens reconnaissent cette autorité, alors ils vont se placer dessous. Hein. Il n'y a qu'une exception à ça, ça serait l'autorité de Dieu. Mais pour le moment, il a choisi de ne pas encore soumettre tout le monde à son autorité en laissant le choix. Et c'est justement une des choses qui nous montre que si Dieu a choisi de ne pas le faire, qui pourrait estimer avoir la position et le droit de le faire ? Parce que le seul qui pourrait dire maintenant vous allez vous soumettre, point à la ligne, c'est Dieu. Il pourrait le faire, ça serait ni méchant ni injuste. Il serait dans la position de le faire et il ne fait pas. Donc, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, on ne soumet pas quelqu'un, mais moi je choisis de me soumettre à une autorité pour quelque chose. Chose suivante, la soumission, comme l'autorité, hein, puisqu'on va par l'autre côté, mais est liée aux fonctions et pas à la personne, à l'exception de Dieu encore une fois. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans la tradition protestante, avec la prédication, hein, les gens pensaient qu'ils se soumettaient au prédicateur ou à celui qui prêche. Mais c'est faux. On se soumet à la parole de Dieu que celui qui parle transmet, et encore si elle est correcte et si elle est juste. Hein, mais on ne se soumet pas à la personne. Même si, effectivement, il y a une autorité, si celui qui partage la parole de Dieu la partage sainement et correctement, il y a une autorité dans ce qui est dit, mais elle n'est pas liée à lui. Quand il se tait et qu'il s'écarte et puis qu'il va rejoindre les autres, il n'a pas une autorité qui lui garde. Hein. C'est pour ça que toute cette attitude de vénération qu'il peut y avoir sur ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les manières, c'est pas biblique. C'est même assez nocif. Et puis, il n'y a rien dans la Bible qui puisse soutenir ça. Hein. Donc, la soumission est liée à une fonction. Et puis, normalement, c'est très simple de se soumettre quand la personne qui exerce l'autorité est à sa place et le fait correctement. Je prends souvent cet exemple parce que pour moi, il est flagrant et puis tout simple. Quand je viens aux répétitions de musique, me soumettre à Thomas ou à Pascal ou à David ou à des gens qu'ils connaissent, mais ça ne me pose aucun problème. J'y connais rien. Eux, ils savent. C'est tellement simple. Il faudrait que je sois un monstre d'orgueil, je le suis, mais pas à ce point-là. Complètement stupide, je le suis un peu, mais pas à ce point-là non plus. Pour dire non, moi, je pense que... Je ne connais pas. Ils savent. Donc, c'est très, très simple. Hein. Si je vais visiter le Siams avec Eric, je ne lui explique pas comment fonctionnent les machines. J'y connais rien. Il connaît. Je me soumets. Si je vais faire une randonnée dans la montagne et que je pars avec des gens qui connaissent la région, je ne leur dis pas, je pense que ça serait mieux de couper par là. Je me soumets, c'est évident. Hein. Et c'est comme ça dans tous les domaines. J'ai eu besoin dans le passé de l'aide de Pascal pour construire un meuble. Je ne lui ai pas dit, bon, il faudrait que... Non, comment on fait pour faire ça ? Il est super doué dans son métier. Moi, je bricole un tout petit peu. Donc, vous voyez, la soumission est une chose très simple et qu'on choisit parce qu'on reconnaît que la personne dans cette fonction-là, elle a une autorité qui vient de sa capacité à faire et de son désir de servir. Donc, la soumission est quelque chose qui fonctionne par domaine, par étage, par tranche. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois être soumis dans ta vie en général, à tout le monde, à tout. Non. Je suis soumis à telle loi parce qu'elle est juste, je suis soumis à telle personne dans tel domaine parce que, mais après dans un autre domaine, j'ai aucune raison de me soumettre à cette personne-là. Donc ça, c'est bien important de comprendre que être soumis, ce n'est pas juste quelqu'un de soumis, quelqu'un qui dit oui à tout, tout le temps, dans tous les domaines. Ah ben le gouvernement a dit, les lois ont dit, mon père a dit, le voisin a dit, le pasteur a dit. Non. Pourquoi je me soumets ? Parce que c'est moi qui choisis. Hein. À qui ? Dans quel cadre ? Jusqu'où ? Et même dans cette position-là, on doit toujours garder notre sens critique intelligemment. Hein. qui fonctionne, parce que quelqu'un peut avoir une vraie autorité dans un domaine où il est compétent et à un moment de sa vie, dans certaines circonstances, déborder. Et j'ai aucune obligation, c'est pas que j'ai même, j'ai l'obligation de ne pas me soumettre dans ce cas-là. Hein. Rappelez-vous que la Bible nous dit que l'obéissance à la vérité est une vertu. Pas l'obéissance. Alors, oui, l'obéissance, parce qu'en général, on imagine que c'est à la vérité. Hein. Mais dans beaucoup de cas, la désobéissance est une vertu aussi. Hein. Quand les Français ont décidé, enfin, ceux qui n'ont pas tous, mais certains ont décidé de livrer des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, en se soumettant aux autorités du moment, ils ont eu tort, ils auraient dû désobéir. Mais ça n'empêche pas qu'au même moment, ils devaient quand même s'arrêter au feu rouge et puis payer leurs impôts. Donc rester soumis aux choses qui étaient correctes, mais par contre être dans la désobéissance pour ceux qui ne l'étaient pas. Et ça, encore une fois, à part pour Dieu, ça s'applique à tous les domaines. Après, j'ai pris quelques catégories qu'on trouve dans les Écritures et qui sont intéressantes. On a un premier texte dans Luc 2, 51, c'est l'histoire avec Jésus. Vous vous rappelez, Jésus, là, il est encore tout jeune. Ils sont montés pour la fête à Jérusalem, toute sa famille, avec tout le village sûrement. Et puis, au moment de repartir, ses parents ne se sont pas aperçus qu'il était resté à Jérusalem. Et puis Jésus, là, c'est assez amusant parce que ça pose pas mal de questions, je pense, théologiquement. Quoi, hein. Alors, on sait que Jésus n'a jamais péché, donc ce n'était pas un péché. Mais il était un peu hors du temps quand même, hein. Il est resté dans le temple et puis là, il discute avec les grands maîtres de la loi et puis ben, ils n'arrivent pas à suivre parce qu'il sait naturellement et instinctivement plus qu'eux, quoi. Donc ça, c'est une situation qui est particulière. Mais là, d'un coup, ses parents, après 2 jours de voyage, s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ce qui montre quand même l'autonomie et la liberté que les enfants à 12-13 ans avaient, hein, parce qu'il y avait la caravane qui voyageait avec tout le village, toute la région. Puis le gamin, il n'était pas là parce qu'il était avec la tante machin, avec l'oncle truc. Là, et puis, ils n'étaient pas toujours derrière à 12 ans. Ils étaient presque majeurs à 12 ans. Hein. Voilà. Ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ils retournent à Jérusalem. Ils le trouvent dans le temple, en train d'expliquer. Ça fait 2 jours qu'il est en train d'expliquer au docteur de la loi, discuter, etc. Ça devait être assez fantastique comme chose. Quoi. Mais bon, ils lui disent, qu'est-ce que tu fais? On était inquiets. Rentre à la maison. Et on a ce verset qui est intéressant. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. La soumission de l'enfant à ses parents, c'est une chose intéressante. C'est un exemple intéressant parce que c'est une soumission qui doit cesser. Hein? C'est pour ça que... la première définition du mariage, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, etc. La soumission pour un enfant, elle va être... on peut dire pour un petit enfant qu'on va le lui imposer, hein, tout petit, mais les parents dans leur rôle d'autorité, puis l'enfant quand il grandit, doivent comprendre que c'est provisoire. C'est un drame, les enfants qui restent soumis à leurs parents toute leur vie. Il y en a, hein, qui ne font pas ce qu'ils devraient faire dans leur couple, dans leur vie, avec Dieu, dans tous les détails, parce qu'ils restent soumis toute leur vie à leurs parents. Non, c'est une soumission. Le respect, oui, l'amour, oui, toute la vie, ça, on respecte toujours nos parents, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, qu'ils soient d'accord ou pas, on n'a jamais le droit de leur manquer de respect, de ne pas les aimer. Mais pas la soumission. Hein. Donc cette soumission, elle est pour un temps, et c'est pour ça que les deux sujets sont liés, l'autorité des parents, ils doivent comprendre que les enfants ne leur appartiennent pas. Bon, ils leur sont confiés pour les amener à l'autonomie, hein, à la maturité. Et c'est exactement l'attitude que devraient avoir les croyants plus mûrs avec les jeunes croyants, et encore plus ce qu'on appelle les pasteurs, les prêtres, les curés, tout ce que vous voulez, les anciens, hein. Alors que malheureusement, on pourrait dire, pour des raisons qui sont relativement simples à retracer, hein, on a voulu garder le peuple de Dieu en enfance. Il y a des parents professionnels, c'est rigolo parce que c'est les enfants qui les payent, c'est un peu bizarre, et ils sont là pour décider à la place des enfants, hein, et pour les garder en état d'enfance. Donc c'est le pasteur ou le prêtre ou le curé, je m'étais dit, c'est anglais, qui explique la parole de Dieu, c'est le seul qui peut le faire correctement. Quand lui prie, c'est plus efficace que quand c'est les autres. Quand il visite, c'est plus fort que si c'est la visite d'un autre membre du corps. C'est faux, c'est grave. Et on ne doit pas se soumettre à cette chose-là. Le but des ministères, c'est très très clair, lisez Éphésiens 4. Il a donné au corps de Christ, donc il, c'est Dieu, hein, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants, docteurs, il y a toute la liste, afin que chacun parvienne à la maturité, à la stature parfaite du Christ. Alors, stature parfaite du Christ, on n'y arrivera pas sur terre, ni les pasteurs, ni les autres, ni les membres, hein, on est tous pareils à ce niveau-là. Mais c'est vers ça qu'on tend, et le but, c'est d'amener chacun à l'état d'âge adulte, pas parfait encore, mais adulte. Oui, je me soumets dans certaines choses, mais on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans l'Église, quelle qu'elle soit, mais dans l'Église en général, qu'on puisse aussi réfléchir, passer du temps, trouver comment chacun peut découvrir, développer, mettre en valeur ses dons. En ne s'arrêtant pas à ce qui est toujours juste évident professionnel. Ah ben Pascal, il est ébéniste, il fera des meubles toute sa vie dans l'église, c'est lui qui construira les trucs en bois. Évidemment qu'on pourra toujours lui demander des conseils là-dessus, mais il a d'autres qualités spirituellement. Ce n'est pas juste un menuisier chrétien. Il a plein d'autres dons. Et puis pareil pour tous. Alors ben Thierry, comme il est banquier, il sera toujours caissier de l'église. Oui, il peut faire ça, évidemment, et peut-être qu'il va le faire parce qu'il fait mieux. Mais il a d'autres dons. Et on pourrait continuer. Ah ben elle est enseignante, elle fera l'école du dimanche toute sa vie. Oui, elle peut le faire et probablement elle va le faire aussi parce qu'elle sait le faire, mais elle a d'autres dons aussi. Et donc c'est pour ça que normalement le rôle des responsables, des autorités du corps de Christ, c'est d'amener chaque enfant à devenir adulte en découvrant ses dons et on va se soumettre à ses propres dons. C'est très possible que quelqu'un participe à la croissance d'un autre croyant et que quelques années plus tard, il soit lui-même soumis aux dons de cette autre personne dans un domaine ou un autre, ou même dans le sien, parce que Dieu l'a fait comme ça. C'est pas du tout on garde l'ordre qu'on avait au départ et puis vous pourrez jamais me rattraper. Non. Comme dans la vraie vie. Alors bien sûr, les parents sont toujours les parents, les enfants sont toujours les enfants, mais dans le corps de Christ, c'est différent. Et puis, ben, dans le domaine des connaissances, j'imagine tous ceux qui ont des enfants ici, vous savez qu'il y a plein de choses qu'ils savent que nous, on ne sait pas et qu'ils nous apprennent. Après, on aura toujours un peu plus d'expérience qu'eux parce qu'on a les heures de vol en plus, ça, ils ne peuvent pas nous dépasser. Mais on va se soumettre comme ça. Hein. Donc ça, c'était l'exemple avec Jésus, avec l'enfance. Et il est intéressant pour toutes ces choses-là par rapport aux enfants, les vrais enfants, mais aussi par rapport au corps de Christ. Le but, ce n'est pas de garder les gens enfants toute leur vie. Après, il y a beaucoup de passages, j'en ai pris un, qui parle de la soumission aux autorités, alors aux autorités civiles, enfin ce que nous on appellerait civiles, ce qui à l'époque n'était pas toujours aussi simple, parce que souvent il n'y avait pas de distinction entre le civil et le religieux. Ça dépendait, mais... Romains 13, 1, j'ai pris un verset classique. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors ça, c'est un verset qui est intéressant, mais qui a été souvent, souvent très, très mal utilisé. Parce que si on déduit de ce verset que tous les chefs d'État, tous les chefs d'entreprise, tous les chefs de quoi que ce soit, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient comme ils sont, et puis en se soumettant à leur autorité, on fait la volonté de Dieu, on commet une erreur monstrueuse. L'exemple même de Christ, des apôtres, nous montre que ce n'est pas ça. Quand les autorités civiles et religieuses, parce que c'était les mêmes dans ce cas-là à Jérusalem, ont rassemblé les premiers chrétiens, les ont enfermés en prison, les ont fouettés, et leur ont ordonné de ne plus parler de Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, si vous voulez nous tuer, tuez-nous, mais nous, on va continuer de parler. En d'autres termes, on ne va pas vous obéir. Hein. Par contre, ils ont continué, je pense, j'espère, de payer leurs impôts, de respecter les feux rouges, les policiers, de ne pas écraser les gens sur le passage piéton. Hein. Donc ce verset ne dit pas que toutes les gens qui sont dans une position d'autorité ont raison parce que Dieu est pour le chef et puis c'est fini, quoi. Ça, c'est horrible. Et c'est une pensée fausse qui a fait énormément de tort au christianisme. Parce que tous les dictateurs qui se sont réclamés de l'autorité de Dieu, hein, les rois d'autorité divine, etc., c'est une horreur, c'est une catastrophe, et encore de nos jours. Non, ce que ce verset dit, c'est que sur terre, l'ordre est mieux que le chaos. Ce n'est pas la perfection. L'ordre qu'il y aura au ciel, où ce sera l'amour et la grâce qui régneront, ça sera parfait. L'Église devrait être une exception, où c'est la grâce qui règne avec l'amour. Mais dans la société civile, ou pas civile, mais où nous vivons sur terre, avec le péché qui est là, qui est une réalité, il faut de l'ordre pour vivre à peu près en paix. C'est ce que ce verset veut dire, c'est tout. Et donc, on doit faire ce qu'il faut pour soutenir les responsables, les chefs, les présidents, les rois, s'il y en a, à condition que leurs décisions soient pour la paix générale, pour l'égalité, pour la justice. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Quand la Révolution française, qui a été horrible par beaucoup de côtés, hein, mais a éclaté à cause des abus de l'autorité du roi qui était là, soi-disant soutenu par l'Église et de droit divin, la majorité des protestants ont participé à la Révolution. Après, ils ont été déçus, ils n'ont pas cautionné après le fait de décapiter tout le monde et de tomber de nouveau dans la même dictature d'un extrême à l'autre. Hein. Mais ils l'ont fait parce que ça semblait moins pire, hein, que le roi qui imposait cette foi, etc. Quoi. Et beaucoup l'ont payé de leur vie. Et puis, ben, on sait que plus récemment, dans les pays où il y a eu des dictatures, hein, que ce soit en Afrique du Sud ou comme ça, ou quand dans un pays entre guillemets libre comme les États-Unis, des gens comme Martin Luther King, qui était pasteur, ont manifesté contre les autorités, alors sans violence, hein, mais ont manifesté pour demander l'égalité des droits, pour vivre en paix, ils ont été très attaqués par certains chrétiens. Ah non, mais on doit se soumettre aux autorités. Si les autorités ont dit que les Blancs pouvaient monter dans le bus et les Noirs devaient aller à pied, c'est les autorités qui l'ont dit. Non, mais c'est faux. Hein. Donc, ce verset-là, oui, il dit que de façon générale, il faut de l'ordre. Et que si une autorité est là pour instaurer l'ordre, on va s'y soumettre. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on se soumet à tout ce que l'autorité dit dans tous les sens, tout le temps. Sinon, ça serait dramatique. Hein. Donc ça, c'est important, parce que souvent, les chrétiens confondent l'outil et le but. Hein. On pense que c'est la soumission qui est une vertu. La soumission, ce n'est pas une vertu, c'est un outil. C'est que si une autorité est légitime et voulue par Dieu, alors la soumission est une chose intelligente. Parce qu'on voit aussi comment, et puis j'irai pour ça, je suis bien placé pour en parler, parce que chez les Français, c'est une spécialité, ce refus de se soumettre même quand c'est justifié, quoi, juste parce qu'on ne veut pas. C'est terrible. Hein. Ça paraît incroyable, mais on voit ça régulièrement en ce moment. La gauche propose des lois que la droite avait essayé de passer, et la droite vote contre parce que ce n'est pas elle qui les a proposés. On se dit, mais c'est ce que vous avez voulu faire, vous n'êtes pas arrivé. Donc si votre but, c'était vraiment le bien des gens, vous le feriez. Mais non, puisque ce n'est pas eux, ils ne le font pas, ils sont contre. Hein. Donc ça, c'est un exemple de refus de soumission qui est stupide. Parce que si la chose est juste et intelligente, peu importe qui l'a proposée, on la soutient. Hein. Mais par contre, se soumettre juste parce qu'on est chrétien et que le chef l'a dit, que ce soit au travail, à l'église, dans la société, c'est pas correct. Donc on doit toujours faire... Et vous voyez pourquoi il faut devenir adulte ? Un enfant, on lui dit c'est interdit, toujours, point à la ligne, parce qu'il est enfant, petit. Mais le but, c'est de l'amener au jour où il va comprendre que dans ce cas-là, c'est interdit, et dans ce cas-là, c'est pas interdit. Mais ça veut dire qu'il doit exercer son raisonnement parce qu'il n'y a pas deux situations les mêmes. Hein. Moi, je me rappelle avoir fréquenté, dans mon passé, personne n'est parfait, hein, des églises américaines. Et puis, il y avait une loi. Un homme ne monte pas seul en voiture avec une femme. C'est un principe très sage, hein, honnêtement. Ça peut éviter beaucoup de problèmes. Mais je connais un missionnaire qui a laissé une jeune fille seule dans des quartiers très dangereux aux États-Unis après un moment d'évangélisation, parce que tous les autres étaient partis. Et puis lui, il avait sa voiture, et puis ils n'ont pas fait attention, ils se sont retrouvés que tous les deux, et à 10h du soir, il a laissé dans un quartier où il aurait pu se faire violer, parce qu'un homme ne rentre pas seul en voiture avec une femme. Mais il faut acheter un cerveau à des gens comme ça, quoi. C'était un Français, alors, ça avec cette personne. Hein. Voilà. Mais qui était tombé dans un système américain. Vous voyez l'idiotie de rester un enfant. Le pasteur a dit qu'on ne rentre pas, alors tu te débrouilles, tu rentres à pied. Bon, il aurait pu lui laisser la voiture et rentrer à pied. Dans le pire des cas, s'il voulait vraiment assumer ses convictions. C'était en plus quelqu'un de pas très courageux, sûrement. Mais vous voyez comment une chose qui est un conseil intelligent peut devenir stupide. Et c'est pour ça que un enfant, c'est comme ça. Tu fais pas, tu fais pas. Un adulte, il dit, alors, en général, je fais pas parce qu'il y a une raison, je dois la comprendre. Mais dans ce cas-là, il y a une autre raison qui est supérieure à celle-là, qui fait que mais le résultat, je vais quand même faire comme ça. Oui. Et ça, c'est ce à quoi on doit tous parvenir. C'est ça la maturité. Hein. D'être capable de voir quand il faut obéir et quand il faut se révolter, quand il faut se soumettre. Hein. Parce que est-ce que l'autorité qui est là, et puis elle prend cette décision, et puis en général, je reconnais l'autorité de cette personne, et puis il y a un domaine là où, je ne sais pas trop, mais c'est juste parce que ça ne me plaît pas, parce que par rapport à mes petits goûts personnels, je peux choisir de me soumettre là aussi. Maintenant, c'est une question de principe sur quelque chose qui est fondamental et je refuse de me soumettre. Par contre, je continue de me soumettre sur le reste. Ça demande beaucoup d'intelligence. Sujet d'après, parce que je vais accélérer un peu, sujet très 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 intéressant et on ne va pas le voir en plein, hein, mais c'est 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. À ce verset, il y a plein de gens qui l'aiment, plein de gens qui le détestent. Hein. C'est amusant comme il y a des versets qui sont très célèbres. Hein. Il y a des gens qui connaissent ce verset par cœur, et on dirait qu'ils n'ont jamais lu le verset qui dit « Je ne veux pas que les femmes prient la tête découverte ». Prophétise, pardon. Hein. Donc ça veut dire que les femmes prophétisent dans l'église, mais je croyais qu'il fallait qu'elles se taisent. Donc la soumission de la femme à l'homme, alors il y a deux choses différentes. Il y avait l'église et le couple. Dans le couple, c'est super parce que la femme, il est demandé à la femme de se soumettre à l'homme et à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Ce qui veut dire que, voilà. Il n'y a pas beaucoup à développer. Évidemment que quelqu'un d'intelligent va se soumettre à Christ. Mais comme les hommes n'aiment jamais leur femme comme Christ devrait, enfin comme Christ le ferait, comme Christ aime l'Église, ben la femme elle doit se soumettre à ce qui est intelligent, à ce qui est logique, à ce qui a du bon sens, à ce qui est normal. Mais rappelez-vous que Paul a dit aussi que dans le corps de Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Donc ça veut dire qu'un homme peut et doit, devrait, se soumettre à une femme quand c'est elle dans sa fonction qui exerce l'autorité. Et j'ai lu ce verset-là, il est amusant, mais si vous lisez l'épître et puis que vous voyez un petit peu le contexte, Paul traite juste un détail de c'était le j'allais dire le mauvais mot, le bazar, ça commence aussi par un B, dans cette assemblée, hein, c'était pas une question que c'était des femmes, c'est le fait qu'on ne pouvait plus parler parce qu'il y avait des femmes qui faisaient tellement de bruit, qui parlaient tellement fort et qui mettaient tellement la panique que les rassemblements ne pouvaient plus avoir lieu. Et Paul dit que les femmes se taisent. Mais ce n'est pas que toutes les femmes sur la planète se taisent dans toutes les églises tout le temps. C'était à cette époque-là, de la même façon que à cette époque-là, les femmes qui avaient les cheveux longs, courts et qui n'avaient pas un voile sur la tête, c'était les prostituées. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sur la planète, quand elles ont les cheveux courts et qu'elles n'ont pas de voile sur la tête, sont des prostituées. Excusez-moi, mesdames, aujourd'hui, qui avaient les cheveux courts. C'était une question culturelle. Hein. Alors, le fait de se soumettre, ce n'est pas culturel, mais quand là, il dit taisez-vous, il y a plein d'autres versets où Paul y parle, et puis il y a des femmes qui sont là dans l'église, elles ont une autorité, elles font des choses, etc. Donc, on ne peut pas prendre un petit verset comme ça, et puis à partir de là, les femmes doivent se taire. Mais elles peuvent parler aux enfants, mais elles n'ont pas le droit de parler. Alors, si elles peuvent donner un témoignage, mais pas prêcher, mais on est dans le ridicule. C'est l'hypocrisie la plus complète, quoi. Hein. J'ai connu une église, c'était aussi de l'autre côté de l'Atlantique, mais alors les femmes n'avaient pas le droit de prêcher, mais si elles devaient dire quelque chose qui était une prédication, elles pouvaient à condition que son mari se tienne à côté. Vous imaginez un peu le truc? Alors la femme, elle est là, elle prêche, et le mari se tenait là, mais là, ce n'était pas un problème parce qu'elle était soumise. Non, mais franchement, hein, on est dans le, et je l'ai vu de mes yeux, hein, on est dans le ridicule le plus complet. Hein. Mais vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, si une femme a un don pour communiquer la pensée de Dieu, et qu'elle le fait dans le respect de la parole de Dieu, et soumise au reste de l'Église, parce que personne n'est au-dessus, ni le pasteur, ni les femmes, ni, hein, alors qu'elle le fasse, c'est super. Maintenant, si une femme est hystérique et crie et empêche le rassemblement de se dérouler, elle doit se taire, mais si c'était un homme aussi, si c'était n'importe quoi, un enfant, un ado, un âne, un cheval, c'est juste qu'il faut que le rassemblement puisse avoir lieu. Donc là aussi, il faut du bon sens. Et puis rappelez-vous ce qu'on a dit au début, la soumission, elle se choisit, elle ne s'impose pas. Donc choisir de se soumettre à quelqu'un dans les dons qu'il a, hein, parce que Paul développe ailleurs aussi dans le couple le principe d'un commun accord. Hein. Donc c'est pas tout ce que dit l'homme sur tous les sujets, c'est bien, et puis la femme elle doit se taire parce que c'est le mari, c'est la femme. C'est un désaccord complet avec qui est Dieu, avec tout le reste, quoi. Donc on doit un peu, c'est pas, je veux pas juste faire un sujet là-dessus ce matin, mais voilà, c'est important. Et puis, dernier sujet, dernière tranche que je vais aborder ce matin, 1 Pierre 5, et je vais lire 5 versets, parce que c'est bien d'avoir le contexte. Je ferai, 1 Pierre 5, 1. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Les anciennes traductions disaient les anciens, presbytéros, ceux qui veillent sur, hein, ceux qui gardent les autres à l'œil, mais pas dans le mauvais sens de garder à l'œil pour guigner, mais dans le sens de prendre soin. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, rappelez-vous que pasteur et berger, c'est le même mot, hein, sauf qu'on a l'impression que c'est devenu un titre. Hein, le berger, c'est le pauvre gars pas trop intelligent qui garde les moutons, et puis le pasteur, c'est le pauvre gars pas trop intelligent qui prend soin du troupeau aussi. C'est la même chose. Non, beaucoup de respect pour les bergers qui ont une grande sagesse. Parce qu'ils sont en contact avec les animaux, la terre, la création. Alors, comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Souvent, on ne lit pas ça avant, hein? Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ça, c'est pareil. Combien de jeunes ont pris ce verset dans la figure, hein? Jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Paf! Vous avez lu les versets avant? Comment ils dirigent? En étant des exemples, en prenant soin du troupeau, en n'abusant pas d'autorité, en se mettant au service. Et pour quelle durée? Le temps que les gens grandissent et arrivent à la maturité. Ce n'est pas à vie, je serai ton père et tu seras toujours mon petit. Donc, en toute humilité. Alors, bien sûr que là aussi, si quelqu'un qui vient à la foi, peu importe son âge d'ailleurs, hein, il ne connaît rien des Écritures, et puis il va commencer à expliquer aux gens qui ont passé leur vie à l'étudier, à la méditer, à vivre avec, comment il faut penser, c'est de la bêtise, c'est de l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit, ben, hey, eux ils savent un tout petit peu plus, écoutez-les. mais pas parce qu'ils vont dominer sur vous toute votre vie, parce qu'ils vont vous aider à acquérir l'autonomie dans l'intelligence, dans le bon sens spirituel, dans la foi, pour que, parce que nous sommes tous les brebis du seul vrai grand berger, hein, et puis, encore une fois, le seul, et je termine avec ça, le seul qui... Non, je ne termine pas avec ça, il y a encore un point. Je presque termine avec ça. Hein, le seul qui avait l'autorité d'être un berger autoritaire, Jésus-Christ, relisez l'évangile. Hein, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Elles entreront, elles sortiront, elles trouveront des pâturages. Il donne la liberté. Et dernier point, Colossiens, ça c'est vrai, Colossiens 4:12, Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Là, c'est le cas où c'est toujours vrai. Hein, sauf que, bien sûr, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Comment la trouver? Autre sujet très complexe qu'on pourra ouvrir une prochaine fois. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, là on peut en tout temps. Parce que, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il est Dieu, il y a des milliers de raisons. Mais c'est le seul cas qui est toujours, et ça sera toujours, et ça sera pour toujours. Même dans l'éternité. Pour le reste, sagesse, discernement, intelligence, libre arbitre. Et puis c'est tellement, moi je ne sais pas pour vous, mais si j'ai une responsabilité, j'essaie de l'assumer, j'apprécie que les gens suivent intelligemment, mais qu'est-ce que j'aime les domaines où ce n'est pas moi qui suis responsable et où il y a des gens compétents et me soumettre à eux. Il n'y a rien de servile dans la soumission. C'est l'intelligence de se soumettre aux dons et à l'intelligence de quelqu'un qui, dans un domaine, a reçu plus que vous. Mais c'est extraordinaire. C'est reposant. On apprend, on progresse. C'est... Si on devait être chef de tout, partout, tout le temps, mais c'est horrible, c'est effrayant. Il y a une solitude terrible, c'est l'enfer. Hein. Alors que soumis les uns aux autres, dans une attitude, encore une fois, intelligente, volontaire, on n'appartient pas aux autres, mais je me mets à disposition dans ce domaine-là pour faire ça. Si vous n'y avez pas goûté, je ne pense pas que ce soit le cas, mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est bien. Et puis quand c'est votre domaine, votre rôle, votre sphère d'autorité, exercez-la avec humilité, avec amour, avec gentillesse, avec grâce. Mais on a tous besoin les uns des autres parce que personne n'a tous les dons, personne n'a tout ce qu'il faut pour tout. Et puis c'est ça le corps de Christ. Et là, c'est différent de ce qui se vit ailleurs. Alors Seigneur, on te demande que tu nous aides avec ces concepts tellement importants, autorité, soumission, dans ton amour, dans ta grâce, de les comprendre, de les vivre surtout, et puis que nous ayons tous ce désir de grandir, de devenir un peu plus mûrs pour prendre nous-mêmes nos décisions avec toujours plus de justesse, et puis que nous sachions accompagner les plus jeunes dans la foi pour qu'ils puissent atteindre le plus rapidement possible aussi cette autonomie, mais toujours dans ta dépendance et dans la soumission aux uns aux autres. Merci Seigneur.